Réseau de résistance avec Vincent Verza.
Alors je suis seul à cette table, alors qu'à l'origine il devait y avoir un jeune homme tout à fait charmant avec moi qui s'appelle Victor Vauquois. Et j'ai l'impression d'être tout petit devant ça. Alors du coup, oui, Victor Vauquois n'est pas là parce que il essaie de se préserver une vie amoureuse et passer du temps de qualité avec les personnes qu'il aime. Et vu la vie qu'on mène, c'est très courageux de sa part d'avoir pris ce temps-là. Et du coup, il n'est pas avec nous, mais c'est pas grave parce que je sais exactement tout ce qu'il fait, donc je peux vous en parler aussi. Alors, cette conférence s'appelle « Réseau de résistance ». C'est vraiment super bien parce que quand on m'a demandé le titre de la conférence, je ne savais pas trop quoi dire. J'ai d'ailleurs repris un peu le descriptif de l'année dernière, alors que je ne vais pas du tout vous parler de la même chose que l'année dernière. Mais par contre, le titre est très bien, c'est de ça dont j'ai envie de vous parler, de réseau de résistance. Et se poser la question si les réseaux sociaux dans lesquels j'évolue peuvent servir de réseau de résistance. Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle qui ne savent pas qui je suis ? Très bien. Alors, je m'appelle Vincent Verza, je suis vidéaste activiste depuis 4 ans maintenant. Vidéaste activiste, ça veut dire que je considère que mon travail de vidéaste, de fabriquer les vidéos, est partie prenante du mouvement activiste et qui porte il doit rendre hommage et faire honneur au travail des activistes que je filme. Donc ça, je fais ça depuis 4 ans et là, depuis 2 ans, j'ai lancé avec d'autres qui me soutiennent la page Partager c'est sympa dans laquelle je fais des vidéos qui donnent l'envie et les moyens de passer à l'action pour construire un avenir juste et durable pour tous. Alors de plus en plus, ma mission est surtout de permettre aux gens de comprendre ce qui est en train de se passer et faire des choix en libre conscience. Alors, réseau de résistance, rentrons là-dedans. J'ai donc une demi-heure pour vous dire ce que j'ai envie de dire. Ça vous va ? Il y a un accord de principe. Très bien. Alors, j'ai envie de commencer en disant qu'aujourd'hui, Pierre, un ami à moi, a été perquisitionné et mis en garde à vue pour avoir décroché le portrait d'Emmanuel Macron, c'est le président de la France, dans la mairie du 2e. Et ça faisait partie des actions ANV COP21, cette association qui a pour objectif de faire de la désobéissance civile pour le climat. Et ça a eu lieu un petit peu partout en France, et moi j'ai participé à l'action de Paris. Alors il est en garde à vue parce qu'il a du coup décroché un des symboles de la République. Mais le problème c'est que s'il l'a fait, c'est parce que notre République a totalement décroché par rapport à ses ambitions climatiques et ne va pas les tenir. Voilà, ça c'est la première prise de conscience, c'est que là on a une action qui est vraiment symbolique et on a le lendemain de cette action une réponse politique juridique qui vient frapper un des militants. Mais ce qui nous intéresse surtout là, c'est les réseaux sociaux. Comment ça peut marcher ? J'ai envie de vous raconter encore deux autres histoires par rapport aux réseaux sociaux. Le 14 février, les policiers de Tarbes ont interpellé un jeune homme de 20 ans, domicilié à Pau. Et il a été identifié comme étant le diffuseur sur les réseaux sociaux de manifestations non déclarées dans le cadre des Gilets jaunes. Il a reconnu le fait et va comparaître devant le délégué procureur sur une composition pénale. Donc là, on a un type, il a diffusé sur les réseaux sociaux qu'il y avait des manifestations non déclarées et il est poursuivi au pénal. Le 9 janvier, on a Eddy, qui faisait des directs dans l'Aude depuis les ronds-points et qui a été condamné à 6 mois de prison ferme, sachant que la procureure de la République avait requis 2 ans d'emprisonnement parce qu'il avait participé au blocage des Gilets jaunes, mais surtout parce qu'il avait filmé et diffusé leurs actions sur son profil Facebook. Est-ce que pour vous, ces faits méritent 6 mois de prison ferme et 3 ans d'interdiction de manifester ? Est-ce que ces faits méritent 6 mois de prison ferme et 3 ans d'interdiction de manifester ? Bon. Donc on est face à un problème, qui est que d'ores et déjà, là, les 2 derniers mois, il y a des personnes qui ont exclusivement un rôle de diffusion d'informations contestataires à ce pouvoir et qui font face à des peines de prison pour le travail qu'ils font. Donc quand on parle de résistance, on parle de résistance à un pouvoir qui a envie de vous faire taire, ou à un pouvoir qui a envie de vous faire peur. Donc j'ai envie de vous faire prendre conscience avec cette série d'exemples qu'en fait on est déjà en train de vivre cette situation et on peut d'ores et déjà imaginer se considérer ou non en tant que résistant. Parce qu'à partir du moment où on va suffisamment déranger, il faut savoir que le pouvoir qu'on a actuellement, en tout cas, va nous tomber dessus d'une manière ou d'une autre. Ce qui est fort gênant. Et dans le même temps, c'est effectivement les réseaux sociaux qui ont permis à énormément des mouvements actuels d'émerger et de perdurer. Et moi, je vais vous parler un petit peu de ce qu'a permis les réseaux sociaux par rapport au taf qu'on a fait avec Il est encore temps et Partager, c'est sympa. Comme ça, on va voir l'impact que ça peut avoir. Et on va aller à rebours. Le dernier gros truc qu'on a fait, c'est la réalisation de la vidéo de l'affaire du siècle. Qui ici a vu passer cette vidéo? Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui ont signé la pétition sans avoir vu la vidéo? Ok. Super. Donc là, on voit que c'est une vidéo qui a soutenu une mobilisation en ligne qui, en l'occurrence, est la plus grande de l'histoire de France. La plus grande pétition qu'il y avait avant, c'était celle sur la loi travail. Il y avait 1,5 million de vues, je crois. Là, on est à 2,1 millions. Dans un contexte de saturation médiatique totale sur un autre sujet que le nôtre, qui était, en l'occurrence, les Gilets jaunes. Donc on voit que les réseaux sociaux ont permis ça, alors que les médias mainstream, qu'on pense souvent être la cause si oui ou non quelque chose prend, se sont pas emparés du truc avant qu'on dépasse 1,5 million en fait, quasiment. Ils s'en foutaient pas mal. Maintenant, effectivement, là je vais pas parler des conséquences de l'affaire du siècle ou quoi, mais c'est juste prendre conscience que les réseaux sociaux peuvent permettre de mobiliser extrêmement rapidement des tonnes de gens. Le million de vues a été dépassé dans les 24 heures, je crois. Et les 2 millions au bout de 2 semaines et demie. Un petit peu avant ça, avec Victor, on avait travaillé sur un truc qui s'appelait « Il est encore temps », dans lequel on a mis ensemble des youtubeurs pour l'essentiel politiques dans leur contenu. Et on a fait une vidéo qui emmenait les gens sur un site internet qui s'appelle ilestencoretemps.fr, qui existe encore aujourd'hui, et qui leur permettait sur ce site internet de trouver des moyens d'agir concrets qui leur correspondaient, si vous voulez agir seul ou en groupe, si vous voulez agir en ligne ou dans la vraie vie, changer de consommation, signer une pétition, participer à tel ou tel truc. Bon. Du coup, on a fait cette vidéo et c'était assez cool, elle a fait 9 millions de vues. L'affaire du siècle, elle a fait 14 millions de vues. Et on a eu, maintenant, 170 000 personnes qui se sont inscrites sur le site. Et en une semaine, il y en avait déjà 140 000, en fait. Et ce qui était intéressant, c'est que cette vidéo, elle appelait à participer à des marches pour le climat. Et c'était du coup pas celle du 8 septembre, mais celle du 9 octobre. 13 octobre. Celle du 13 octobre. Qu'est-ce qu'ont permis les réseaux sociaux dans cette situation-là ? Celle du 8 septembre, la marche du 8 septembre pour le climat, qui a eu lieu à Lyon et un peu partout en France, elle a eu lieu de manière très organique suite à la démission de Nicolas Hulot. Il y a eu plein de gens qui ont eu envie de marcher. Et ça a permis à rassembler 150 000 personnes dans la rue. Mais ce qui est super intéressant, c'est qu'une semaine avant cette autre date de mobilisation qui était le 13 octobre, moi j'étais administrateur de l'événement Facebook pour Lyon, et on avait 3000 personnes, 4000 personnes intéressées. On a fait cette vidéo « Il est encore temps », qui parlait de plein de choses, mais essentiellement qui partageait le récit de se dire « En fait, il est encore temps de plein de choses ». Certes, on ne va pas éviter le dérèglement climatique, on est déjà dedans, mais il est encore temps d'éviter que ce soit encore pire, et c'est à nous maintenant d'agir. Et il faut qu'on trouve les moyens qui nous correspondent pour agir. Et ce message-là, en plus de permettre à du coup 170 000 personnes de trouver leurs moyens d'agir, en fait même plus, parce que ça c'est les gens qui ont laissé leur mail, il a surtout permis de faire multiplier par 3 le nombre de personnes qui avaient prévu de participer à la deuxième marche pour le climat. Et j'ai vraiment vu la différence, c'est la vidéo qui a permis de doubler ou multiplier par 3 des gens qui sont venus dans la vraie vie. Donc c'est un moyen de... On pourrait souvent la manière, un peu old school de penser les réseaux sociaux, c'est j'ai un truc à dire, j'ai une info à faire passer et je vais la faire passer. Les gens comme ça, ils vont décider sur la base de cette info. Et en fait, on fait beaucoup plus sur les réseaux sociaux aujourd'hui et surtout avec des vidéos que ça. Le gros du travail que je fais, c'est raconter des histoires. C'est comme ça que je définis mon travail. Je raconte une histoire qui donne envie d'agir. Et du coup, il y a une grosse responsabilité parce qu'il faut que le moyen d'agir, il soit à la hauteur de l'histoire qu'on raconte. Mais c'est un truc qui est encore à explorer. J'ai l'impression qu'en un an, la dernière fois que je suis venu ici pour parler de mon travail, l'année dernière, tout était encore à prouver, vraiment. On avait fait 2-3 petites vidéos, ça avait permis 2-3 machins. Je me rappelle que je parlais d'exemples des AMAP, de 2000 personnes qui ont rejoint tel ou tel truc. Là, on a complètement changé d'échelle. Maintenant, c'est des centaines de milliers de personnes qu'on arrive à mobiliser, et ce, en seulement 2 ans. Et surtout, en comptant sur le réseau. Une manière de comprendre les réseaux sociaux, c'est qu'on pense souvent c'est une personne qui a fait une vidéo, en l'occurrence nous, et puis du coup on la met en ligne et après ça elle se diffuse si elle est bien. C'est vrai, mais c'est pas que ça. Par exemple, la vidéo Il est encore temps a été cross-postée sur 64 pages différentes. Ça veut dire que nous, on a fabriqué une vidéo, on l'a mise sur notre page Facebook, jusque là tout le monde suit. On a autorisé 64 autres pages dans lesquelles il y avait des médias, des trucs de divertissement, des pages d'associations, des groupes Facebook, etc. Et on leur a permis de poster la vidéo comme si c'était la leur. Ça leur a permis de dire à leur réseau, à eux, des gens qui se sont abonnés à leur page, que cette vidéo-là, c'est leur message. Et c'est ça qui est très fort. C'est que du coup, des succès comme ça ne sont possibles que si on fait marcher un réseau de vraies personnes qui administrent des pages et qui sont d'accord de porter ce message avec nous. Et 64 pages, clairement, il y en a peut-être 35 qui sont des ONG. Pour certaines personnes qui ont l'habitude de travailler dans la coordination inter-orga, peuvent savoir à quel point c'est horrible de mettre d'accord des gens sur un message de communication quand ils doivent représenter leur structure. C'est même impossible, en fait. On aboutit souvent à des messages totalement vides qui sont de l'ordre du communiqué de presse. Donc nous, on fait des vidéos avec nos mots, on dit c'est la merde, c'est galère et tout, machin, et on la met, et là, elle est tellement bien que tout le monde veut la reprendre. Et on fait comme ça cohabiter des organes qui n'ont pas du tout l'habitude de travailler ensemble. Bon. Du coup, on a fait ça. Et c'est chouette parce que ça permet à des gens de passer à l'action, mais je suis en train de réfléchir de plus en plus à utiliser les réseaux sociaux vraiment comme un réseau de résistance. Tant qu'on peut. Parce que ce que j'ai montré, c'est qu'effectivement, là, le gouvernement, l'État, la justice, ils tombent de plus en plus sur les personnes qui utilisent les réseaux sociaux pour ça. Et qu'il y a aussi des lois qui sont en préparation au niveau européen qui garantissent pas du tout le fait qu'on puisse continuer à utiliser les réseaux sociaux. Et il y a de très très bonnes chances pour que dès l'année prochaine je sois moi marqué comme étant page produisant des fake news pour une raison ou pour une autre et que du coup mon contenu soit interdit ou qu'il n'arrive plus chez vous. Du coup je vous invite par exemple à ce niveau là à vous abonner à plein de moyens différents de suivre ce qu'on fait. On est sur Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, comme ça on met un peu pas tous nos œufs dans un même panier. C'était pas du tout ça que j'avais l'intention de vous dire. Ok. Du coup, ce que j'ai envie de vous dire, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser vraiment les réseaux sociaux comme un outil de résistance, comme un outil de réseau de résistance. Alors en fait, j'ai envie de me lever, alors je me lève. On a travaillé, y compris avec Juliette qui est ici présente, à un petit document qui est vraiment écrit très petit et vous pouvez pas du tout lire. Mais c'est pas grave parce qu'on va en faire une vidéo et vous allez la voir peut-être et le document sera aussi disponible avec la vidéo. Et ce document, c'est les questions qu'il faut se poser. Et pourquoi je parle de ça ? C'est un moyen en fait d'établir des stratégies. Et dans les stratégies, on peut inventer des stratégies sur les réseaux sociaux. Alors nous, on a fait le travail avec ce petit document sur la base d'un truc qui nous est arrivé, qui était qu'il y avait le reportage d'Envoyé spécial sur le glyphosate qui passait à la télé. Et il était aussi disponible en ligne. Et l'important ici n'est pas notre position par rapport au glyphosate, okay, c'est juste un exemple. Par rapport au glyphosate, nous on a essayé d'imaginer quelle était la stratégie qu'on pourrait suivre si hypothétiquement on voulait bannir Monsanto hors de France, par exemple. Eh bien, dans l'idée de pouvoir bannir Monsanto hors de France, on pouvait bannir, empêcher les locaux qu'ils ont d'exister, mais il fallait aussi empêcher les produits qu'ils fabriquent de se vendre. Okay ? On a un peu réfléchi, on a abouti à l'idée de se dire, qu'est-ce qui peut empêcher des produits de se vendre ? C'est du sabotage, par exemple. On a tous déjà vu une brique de lait qui s'est cassée la gueule dans le supermarché et qui se répand, et clairement elle va pas être vendue. Bon, sur cette logique là on s'est dit, ok, on va se ramener à 13 avec une action totalement secrète, on va se réunir, on va avoir des sacs de sable et on va rentrer dans un supermarché et on va balancer du sable dans les trucs et on va prendre une photo et après ça on va courir avant que la police arrive et on va espérer qu'on se fasse pas choper. Donc là, moi je me suis dit, ok, c'est bien, mais essayons de garder l'objectif qui est faire que les produits se vendent pas et d'essayer d'être un peu plus créatif. Là, je me suis dit, est-ce que ce qui empêche qu'un produit se vende, c'est qu'il n'y ait plus le code barre ? Donc, je me suis dit, on pourrait mettre du marqueur sur le code barre, mais en fait, non, parce qu'il s'avère qu'ils ont le code du produit dans leur machine. Bon. À la fin, on a abouti à l'idée qu'un des trucs qui pouvait empêcher ces produits de se vendre, et en fait, un peu n'importe quel produit dans un supermarché, c'est qu'ils n'aient plus de bouchons. S'ils n'ont pas de bouchons, ils ne peuvent pas se vendre. Et là est venue l'idée d'utiliser les réseaux sociaux comme un réseau de résistance. Que ce soit un peu un axe de réflexion sur des stratégies à venir. Alors, l'exemple de mode d'action où on venait à 13 et avec un sac de sable et machin, c'est typiquement ce qu'on a l'habitude de faire. Et c'est très très bien parce que en fait, ça s'appuie sur le collectif. Et je suis assez convaincu que ce dont on a besoin, c'est agir ensemble et faire groupe et apprendre les uns des autres comment est-ce qu'on fonctionne pour agir. Surtout que, je regarde mes notes, que effectivement la pensée individualiste a complètement écrasé la pensée collective. C'est-à-dire ce qu'on voit avec la promotion très très active des éco-gestes, des petits gestes, c'est de dire, en fait, le problème du dérèglement climatique n'est pas politique, n'est pas systémique, n'a rien à voir avec le capitalisme, il a surtout à voir avec ta capacité à toi à fermer l'eau du robinet. Ce qui est évidemment pas totalement vrai. Du coup, il faut effectivement prendre conscience que le collectif est super important. Mais les réseaux sociaux, c'est très très individualiste. C'est chacun reçoit sur son mur son information et de temps en temps interagit, mais c'est en son propre nom. Et je me suis dit, si on a réussi à avoir 570 000 personnes qui s'inscrivent sur un site, on peut vraiment facilement faire une petite vidéo qui dit, si vous voulez faire chier Monsanto, voilà la liste de leurs produits, et on vous propose très discrètement de rentrer dans les supermarchés, de sélectionner un produit, de discrètement enlever un bouchon, de le mettre dans votre poche et vous sortez. Si on passe cette information-là massivement sur les réseaux sociaux, et on sait le faire, parce qu'on l'a déjà fait, on peut imaginer une forme d'activisme allant jusqu'au sabotage, qui est un truc qui n'existe quasiment pas en France, on ne fait pas du tout de sabotage, c'est un des modes d'action non-violents qu'on n'a pas du tout exploré, parce qu'il présente des risques juridiques. Mais du sabotage qui ne présenterait justement pas de risque juridique. Dans le sens où c'est vraiment impossible de voir qui est en train d'enlever un bouchon ou pas. C'est hyper simple. Donc moi, ça m'a fait triper. Est-ce que ça vous fait triper à vous aussi, cette idée ? Bon, du coup, il y a vraiment un truc à explorer maintenant. J'ai pas énormément plus d'idées. C'est un truc que j'ai envie qu'on réfléchisse collectivement et que ce soit une des pistes. Comment est-ce que, sur la base de juste faire passer le message avec une vidéo, on peut faire passer plein de gens à l'action, y compris allant jusqu'au sabotage, sans risque juridique. Et la dernière réflexion que j'avais envie de partager avec vous, c'est sur le point de vue du récit, que les vidéos me permettent de diffuser des récits. Et c'est une réflexion qui est dans le début du bouquin de Pablo Servigne. Et je vais vous lire ça. Il dit « La fin de ce monde, et plus encore les mondes dont elle accouchera, dépendront étroitement des liens que nous parviendrons à tisser et de l'imaginaire que nous réussirons à inventer dans le futur le plus proche. » Alors moi, quand je lis ça, je me dis « Putain, merde, j'ai 3 vidéos de retard parce qu'il y a plein d'imaginaires et de trucs que j'ai envie de passer très très vite et que j'ai pas encore eu le temps de faire. » Mais je me réjouis en même temps parce que ça veut dire que si on se projette dans une notion d'effondrement, est-ce que parmi vous, il y a des gens qui pensent qu'il y a un risque probable d'effondrement de cette société thermo-industrielle ? Ok. Et souvent, malheureusement, cette notion amène à une forme de découragement. Évidemment, c'est hyper flippant et triste. Et en même temps, là, avec cette phrase-là, moi, ça me met en mouvement. Parce que ça me fait dire que c'est maintenant qu'il faut qu'on apprenne à faire ensemble. C'est maintenant qu'on crée le réseau de résistance qui, après ça, va être utile. Alors, je ne suis pas un expert de l'histoire, mais j'ai l'impression que dans la situation de la guerre de 39-45, les réseaux de résistance, ce n'est pas des trucs qui se sont créés comme ça. Il y avait souvent une base. Il y avait des gens qui avaient déjà l'habitude de faire des choses ensemble. Et autant vous dire que je ne suis pas très optimiste quant à la direction que va prendre notre démocratie pour faire face à des krachs boursiers, à des raréfactions des ressources, au vu de ce qui se passe maintenant lorsqu'on est juste dans une lente déflation. Donc moi, je me dis que le plus important aujourd'hui, c'est apprendre à faire ensemble et utiliser dès maintenant les réseaux sociaux pour donner envie de devenir résistant et se retrouver. Mais dès qu'on s'est retrouvé, par contre, il faut qu'on travaille dans la vraie vie. C'est ça qui est le plus important. C'est que si on crée des groupes Facebook dans lesquels ou des boucles Telegram dans lesquels on organise plein de trucs, bah c'est vraiment super important qu'on se retrouve dans la vraie vie et qu'on ait limite un rendez-vous hebdomadaire. Comme ça, s'il se passe quoi que ce soit, et ben on sait où se retrouver. Voilà, je pense que j'ai parlé une demi-heure. 25 minutes. Bah, j'ai 5 minutes, alors je vais vous chanter une chanson. Non, je déconne. Mais voilà, en fait, j'avais surtout envie de vous dire ça. J'avais envie de vous dire que je suis enthousiaste de ce qu'on va pouvoir réussir à faire avec les réseaux sociaux, que je suis content de voir qu'on arrive à le faire et que de plus en plus de gens me fassent aussi confiance pour porter ces messages-là, des fois très militants, bien qu'eux-mêmes ne le soient pas. Et je pense là aux autres créateurs vidéo qui ont participé aux collaborations et même à des stars sur la vidéo de l'affaire du siècle qui ont risqué une bonne partie de leur gloire et reconnaissance internationale en faisant partie d'un truc à caractère politique. Sinon, j'ai plein de notes aussi sur comment je fais des vidéos, la recette, les informations un peu techniques et stratégiques de comment je fabrique les vidéos. Donc si vous avez des questions comme ça, sachez que je peux y répondre facilement. Et je vous passe le micro.
Ça marche ? Ah si, il marche. Du coup, si vous avez des questions, vous pouvez lever la main, je vous apporte le micro.
Baptiste, merci pour l'intervention. On était venu déjà l'année dernière à Primevert pour venir te voir avec une qui venait d'une revue qui était aussi super intéressante qu'on avait découvert pour cette occasion-là. Il y avait déjà eu du chemin de fait à cette époque. Il y en a encore bien plus qui a été fait depuis, évidemment. Donc merci, merci pour l'intervention, puis merci pour tout l'enthousiasme que tu apportes à plein de gens, à plein de... Nous, on vient plutôt du monde des vieilles ONG là, voilà, qui ont du mal à s'interorganiser, etc. Évidemment, un peu méfiante au début, et puis elles voient qu'elles n'ont jamais réussi à mobiliser autant dans les rues. Et voilà, c'est l'assemblage de tout qui fait que ça peut donner des trucs chouettes et que tout le monde a envie d'avancer un petit peu dans ce sens-là. Ma question, elle est que... Au niveau international, comment tu vois les choses au niveau, justement, sur cet outil-là ? C'est pas d'aujourd'hui que les réseaux sociaux ont permis de faire bouger des trucs. Enfin, voilà, on pense au printemps arabe, on pense à d'autres choses. Sur l'aspect, justement, vidéo et mobilisation, en particulier sur le climat, mais on va dire mouvements sociaux de manière générale. Est-ce qu'il y a des choses que tu as inspirées, qui t'inspirent
Nous, Partager Sympa, on va se lancer dans l'import-export international de casquettes. Ça vous intéresse. Non, au niveau international, en fait, c'est un truc qu'on a envie de contribuer à faire émerger. On a réalisé que ce qu'on fait n'existe pas dans d'autres pays. Il arrive que des créateurs vidéo soutiennent d'une manière ou d'une autre des mobilisations. C'est arrivé en Grande-Bretagne là, avec Extinction Rebellion. Mais ça reste un phénomène rare et c'est pas une habitude encore dans pas mal de pays que de travailler avec des créateurs du web pour soutenir leur campagne. Et du coup, là, très concrètement, on va passer deux week-ends en Suisse à former des gens à la fois à la vidéo et au travail avec des créateurs vidéo pour permettre que de nouvelles belles choses émergent. Et on avait prévu aussi de le faire au Québec, mais j'ai de moins en moins envie de prendre l'avion, donc je pense que je ne vais pas le faire. Mais en tout cas, déjà en Europe, il y a plein de trucs à faire. Et ce qui est super bien, c'est qu'il est encore temps. Bon, c'est bien et c'est pas bien, dans le sens que la vidéo, il est encore temps. Elle a un style très particulier. Et en fait, depuis, il y a des tonnes de vidéos qui sont faites comme ça, avec limite la même intro de 5 personnes qui parlent en même temps, bref. Mais c'est quand même super cool de voir que ça a inspiré du coup un collectif de vidéastes belges qui ont réussi à eux aussi rassembler les stars belges, dont Angèle, pour faire une vidéo de mobilisation. Aujourd'hui, les Belges nous mettent la misère sur les mobilisations qu'ils arrivent à faire. Et il y a aussi eu une vidéo suisse qui a repris exactement le même mode, mais en enlevant la dimension politique. C'est assez rigolo. C'est-à-dire que la version suisse de la vidéo Il est encore temps ne parle pas de désobéissance civile et ne remet pas en question les responsables politiques, mais met l'accent sur les petits gestes. Bon, il y a des trucs qui se sont perdus un petit peu en chemin, mais c'est pas grave. Mais oui, du coup, il y a vraiment quelque chose à creuser et de l'inspiration à créer pour que ce genre de truc existe de plus en plus.
Moi, j'avais deux questions. La première, c'est une question que je me pose un peu tous les jours et je me la suis posée par rapport à toi, parce que c'est vrai que tu parles un petit peu de radicalité, tout ça. C'est comment gérer, mais c'est ce par quoi tu as commencé ton propos, ce risque d'appeler à de la désobéissance civile plus radicale et d'être vu. Pour le coup, c'est facile, de savoir qui tu es. Et c'est le contraire d'action avec des sacs de sable et d'aller comme les gilets jaunes font, etc. Comment tu gères ça? Comment tu penses le gérer dans les années à venir, cette espèce de jeu d'équilibriste avec le gouvernement qui a de moins en moins de limites et qui fait à sa guise avec la loi? Voilà, ça c'était ma première question. Et ma deuxième, beaucoup plus technique, mais comme tu as parlé deux fois d'accompagnement sur les vidéos dans ce style-là, c'était pour avoir un peu des renseignements, parce que j'aimerais bien proposer des choses comme ça, mais au niveau de la technique, je manque beaucoup de choses. Voilà, merci beaucoup.
All right. Alors, bon, ça peut sembler bête, mais en fait, je suis un peu déçu par rapport à gérer le risque d'appeler à la désobéissance civile radicale et tout. Parce que si je posais vraiment problème, je serais attaqué. Et j'ai encore jamais été attaqué. Du coup, c'est un peu la loose, ça veut dire que je dérange personne. Sauf que, il y a eu notre cher ministre de l'Environnement, De Rugy, qui a eu la bonne idée d'appeler les 100 premières personnes sur Internet à venir lui parler de ce qu'ils veulent faire pour le climat, en réponse à l'affaire du siècle. Et je suis vraiment absolument certain d'avoir été dans les 100 premiers à m'inscrire. Et en l'occurrence, j'ai dû être blacklisté, parce que tous mes autres amis qui se sont inscrits en même temps que moi, eux, sont dedans. Mais moi, non. Donc ça, j'en tire une certaine reconnaissance de mon travail. Et ça ne m'empêche pas, évidemment, d'organiser un petit quelque chose avec les personnes qui ont réussi à rentrer, mais je ne vous en dis pas plus. Alors, quel est le risque d'appeler à la désobéissance civile radicale? J'ai regardé hier un live de Kevin Haddock sur la chaîne Demos Kratos. Kevin Haddock qui fait partie de Deep Green Resistance, dans lequel il appelle officiellement au sabotage. Et il raconte que ça lui a pris 5 ans avant de pouvoir parler de sabotage et de se sentir bien en fer. Et effectivement, il y a une comparaison à faire qui est que au Brésil, les personnes qui parlent du climat, qui parlent de la nécessité de renégocier les accords avec les entreprises minières et de la corruption, on les tue. Et ceux qui font des actions de sabotage sont plus difficiles à repérer, parce qu'elles impliquent de fait le fait d'être à visage couvert. Et donc moi, je suis dans cette situation en France où pour le moment, on ne me tue pas, et je ne pense pas que c'est dans un avenir très proche. Et du coup, il n'y a pas un très très grand risque pour moi à appeler à de la désobéissance tant que, c'est quoi déjà le truc, apparemment il y a des risques si t'appelles à l'insurrection armée, là t'es un peu dans la merde quand même. je crois. Hein. Ça me semble pas aberrant. Mais pour l'instant, je fais pas ça. Et du coup, pour l'instant, pas trop de risques, mais l'envie aussi d'être à la hauteur de l'enjeu et de savoir que c'est aussi, entre autres, avec ce que je dis, qu'on peut savoir où on en est par plein de côtés. Donc j'ai cette responsabilité-là aussi. Et sur des aspects techniques, je sais pas trop comment. Tu veux savoir comment faire des vidéos ?
Non, mais comme t'abordais le sujet,
ouais.
J'ai pas de question plus précise que ça, mais
j'ai une réponse précise.
Allez.
Non, alors d'abord un des trucs qu'il faut savoir, et s'il y a des représentants des ONG ici, sachez-le, c'est que faire une vidéo est un processus créatif, autant qu'un processus de vulgarisation. Et c'est un processus qui prend énormément de temps et qui demande un savoir-faire très complexe et complet. Moi, je fais des vidéos depuis que j'ai 14 ans. Et souvent, on pense que faire une vidéo, c'est comme rédiger un communiqué de presse. Et il faut savoir que c'est vraiment pas le cas. Et donc, si il vous arrive de travailler avec des gens qui font des vidéos, essayez vraiment de les écouter dans ce qu'ils vous racontent, dans leur envie de faire quelque chose de créatif, et laissez-leur de la place pour l'être, parce que ça va faire des trucs qui sont mieux que si vous essayez de les cadrer un petit peu trop. Maintenant, si je peux donner un conseil qui dépasse le fait de faire seulement des vidéos, ce serait celui de raconter une histoire qui va droit au but. Nous, ce qu'on fait, et vous pourrez regarder les vidéos et voir si c'est bien ce qu'on fait, on a une structure qui est en 5 points pour raconter à peu près toutes les histoires. Et comme ça, on est sûr de rien louper. Ça commence par une accroche qui dure 10 secondes environ, dans laquelle on doit donner un peu le sucre, dans laquelle on doit comprendre ce que vous allez potentiellement apprendre dans cette vidéo et qui doit donner envie de regarder la suite. Après ça, il y a le contexte. D'où on parle, qu'est-ce qu'il faut savoir pour comprendre le reste. Des fois, ça va très vite. On est actuellement à Paris, c'est la deuxième grève des jeunes pour le climat, et ça rassemble X milliers de personnes qui protestent contre l'inaction du gouvernement. Ça, c'est le contexte. Pourquoi ils protestent ? Quel est le problème ? Et ça, c'est un peu la grosse partie des vidéos, si on essaye d'expliquer, vulgariser quel est le problème. Et de pas trop simplifier, parce qu'en l'occurrence, un des trucs qu'on est convaincu, c'est que la situation est complexe et qu'il n'y a pas de réponse facile. Et donc, il faut regarder le problème un peu par tous les bouts de la lorgnette. Une fois qu'on a bien compris le problème, on essaie de proposer une résolution à ces problèmes. Et là, c'est souvent la partie où la musique commence à faire tin-tin-tin-tin-tin pour donner envie de passer à l'action. Et là, on essaye, en tout cas quand on peut, de donner des moyens d'agir qui sont individuels, très rapides, une fois que tu as vu la vidéo, collectifs, voilà les personnes avec qui tu pourrais faire des trucs, et politiques, s'il y en a, s'il y a des leviers politiques, des deadlines, des machins, on en parle. Et puis enfin, il y a l'envoi, qui est très explicite. Rendez-vous la semaine prochaine, partagez, c'est sympa. Voilà. Et en fait, je remarque que c'est hyper utile tout le temps pour raconter une histoire très rapidement, ce truc-là. Accroche, contexte, problème, résolution, envoi. Voilà.
Salut.
Bonjour.
Tu parles de réseau de résistance. Moi, je voulais parler de réseau de confiance parce que, en fait, les organisations, pour qu'elles puissent travailler ensemble, il faut qu'elles se fassent confiance. Ce qui était pas forcément le cas avant, le 8 septembre. Pour l'anecdote, Vincent a débarqué dans une réunion inter-orga, justement, où il y avait autour de la table des ONG, des associations et des partis politiques. Et en matière d'écologie, tout ce beau monde ne se parle pas et se méfiait les uns des autres. Et quand Vincent est arrivé pour nous mettre un petit coup de pied au cul, ça a fonctionné et en une semaine, on a tous bossé chacun avec nos compétences et nos qualités et nos défauts, et on a quand même réussi quelque chose. Et ça s'est créé de façon un peu magique, et je ne sais pas comment... après, cette confiance, elle est restée dans le temps, parce qu'on a continué d'organiser d'autres mobilisations, mais sur l'amorce de cette confiance-là, qu'entre militants, on se reproche beaucoup de choses les uns les autres, c'est aussi un truc à dépasser, notamment parce que l'enjeu devient... est primordial. Et du coup, voilà, comment on construit des réseaux de confiance?
Eh ben, à ça, j'ai envie de partager du coup une autre réflexion que j'ai et qui me vient de Nicolas Héringer. Si vous voulez, il écrit un blog sur Mediapart qui est pas mal. Et dans lequel il a parlé d'une radicalité dans le soin. C'est-à-dire qu'être radical, c'est souvent c'est le mot qui est vraiment à la mode là, les derniers mois. C'est se dire qu'on ne fait pas assez et qu'il faut aller vers plus de radicalité. Il faut être un peu, si on a une vision viriliste du combat, et ben on se dit qu'il faut aller à l'affrontement, il faut se prendre des coups de matraque. Voilà, c'est ça la radicalité. Et j'aime beaucoup l'idée de radicalité dans le soin. Et ça, ça veut dire très concrètement que les personnes qui ont commencé à travailler ensemble à Lyon, j'aimerais beaucoup qu'on crée davantage d'espace pour prendre soin les uns des autres. Pour permettre à ceux qui ont leur verre à ras-bord rempli de trucs qui sont difficiles pour eux, bah, de le vider et de construire sur une nouvelle base les mobilisations à venir. Et effectivement, moi, mon rêve, c'est qu'un de nos critères sur la feuille, là, c'est écrit pour imaginer l'action, c'est est-ce que l'action, elle nous fait kiffer ? Et est-ce qu'on peut la rendre encore plus joyeuse et plus excitante ? Et en fait, c'est un truc, là, dans certaines des réunions, ça arrive de se dire, si on organisait l'enterrement de quelqu'un, ce serait pas plus triste, en fait. Et c'est bien dans ces cas-là de se dire que, ok, en fait, c'est pas obligé que ça se passe comme ça. Et on peut se donner les moyens de créer de la respiration et de vraiment axer notre réflexion sur qu'est-ce qui nous ferait vraiment kiffer et qu'est-ce qui nous rendrait joyeux. Et de cultiver ça. Et de, moi, mon rêve, c'est que d'ici à l'effondrement, alors si vous avez une date, balancez-la, on arrive à créer des petits groupes de 6-8 personnes qui ont déjà mis en place des moyens de se coordonner et travailler ensemble, qui se kiffent les uns les autres, qui sont genre devenus des amis, qui adorent faire des trucs ensemble, et qui inventent eux-mêmes qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, comment ils ont envie de le faire, et qu'ils mettent en place. Très probablement, chacun de ces petits groupes, on peut se dire, ah, mais ça va être le bordel, il va y avoir des trucs de partout. Moi, je dis d'abord oui, et ça va être très bien. J'aimerais bien que ça ait lieu. Et de deux, comme un des éléments pour inventer une stratégie, c'est d'analyser le contexte, il y a de fortes chances que si tout le monde fait ça, eh ben, on arrive à se retrouver avec tout un panel d'actions très différentes et très désorganisées, mais qui, en fait, finalement, répondent au même contexte et donc aux mêmes objectifs et avec les mêmes cibles probablement visées. Et moi, je trouverais ça trop, trop bien. Et on a déjà un peu créé ça avec un groupe d'amis. Donc, faites-le. Rencontrez-vous une fois par mois avec du houmous et des bières. Et inventez des trucs que vous avez envie de faire. Et après ça, faites-le. Merci, la dame au fond.
Alors bonjour, et déjà je voulais te remercier de parler de Deep Green Resistance, parce que c'est vrai que c'est un collectif qui est resté plutôt à l'écart. Pourtant voilà, ils ont publié des livres qui s'appellent Écologie en résistance, qui sont assez intéressants, je trouve. Ils parlent notamment de tout ce que tu parles, en fait, de créer des petits groupes et faire des actions coup de poing. Et ma question, ça serait vis-à-vis du mouvement des Gilets jaunes, on a vu beaucoup de répression judiciaire. Donc, on prend conscience des risques juridiques, notamment quand il y avait Éric Drouet qui a appelé une trentaine de personnes à mettre des bougies, s'est retrouvé en garde à vue avec beaucoup de personnes. Et voilà, je me disais, est-ce que ça serait pas intéressant de se rapprocher de certaines têtes médiatiques des Gilets jaunes comme Maxime Nicole et Éric Drouet pour vivre un peu la répression qui s'abat sur les Gilets jaunes et savoir comment y faire face. Parce que voilà, ils ont trouvé des solutions pour se défendre et je trouvais ça intéressant.
Ouais, ouais. À fond, moi, un des trucs qui me fait tilt, c'est par rapport à ce qui est écrit dans le bouquin « Comment faire tomber un dictateur quand t'es tout petit, sans armes, tout seul, machin ». Alors, je ne l'ai pas lu, mais c'est Juliette qui m'en a parlé. Et dedans, apparemment, il y avait un truc où ils avaient un t-shirt qui changeait en fonction du nombre de gardes à vue que tu avais fait pour porter le t-shirt. Et sur le t-shirt, du coup, il y avait écrit « Faire tomber le gouvernement », en gros. à peu près. Et en gros, tu avais un t-shirt vert quand tu avais jamais fait de garde à vue. Si tu avais fait une garde à vue, tu devais montrer ton papier de garde à vue et tu avais le droit à un autre t-shirt qui était rouge. Et après ça, tu avais un t-shirt noir quand tu avais fait plus de 10 gardes à vue. Et du coup, c'était trop cool chez les jeunes d'avoir le t-shirt noir, tu vois. Et ça, j'aime bien parce que du coup, ça, c'est un outil de libération mentale. Et à mon avis, c'est le truc principal qu'on a besoin d'explorer aujourd'hui. C'est comment se libérer de la peur. Parce que ce système ne tient que parce qu'on en a peur. Et effectivement, par la pratique de la répression, moi j'ai fait plusieurs samedis, je vois vraiment la différence entre la première fois que tu te fais gazer et la troisième fois. La troisième fois, tu danses un peu dans les gaz, tu vois. Et ça, c'est un apprentissage qui, à mon avis, est précieux. Et je vous invite à en faire l'expérience si vous le pouvez. Et tout en vous donnant vraiment les moyens d'être en sécurité et d'avoir un groupe de personnes, peut-être celui avec lequel vous ferez des actions, qui vont ensemble, ça c'est une des choses. Et effectivement, par rapport à la répression, moi j'ai réalisé qu'on n'a pas, en tout cas pour le moment, j'ai pas l'impression qu'on a accepté que ce système, si on le dérange vraiment, va nous réprimer. Donc si on a vraiment envie de le déboulonner, ou d'être à la hauteur de l'enjeu climatique, forcément, on va se faire réprimer. Et ça, c'est une pensée qu'on doit avoir chacun. Et quand je dis ça, je me rappelle qu'il y a 3 ans maintenant, ma sœur m'a dit « Tu sais, Vincent, je réfléchis vraiment si ça vaut le coup d'aller en prison, là. » Et ça m'a fait genre « Quoi ?» Mais et tout. Mais moi, j'étais activiste déjà. Hein. Mais genre ma sœur qui dit « Oui, bon, bah, c'est vrai. Peut-être ça vaut le coup. » Et ça m'a fait du bien aussi parce que ça me fait dire ouais, en fait c'est vrai, si on est un tout petit peu sérieux, si on dit vraiment que c'est la fin de l'humanité qui est en jeu, la disparition de toutes les espèces, la vie sur Terre, bah, peut-être que quelques gardes à vue ça vaut le coup, quoi. Enfin, je sais pas, en plus moi j'ai pas vraiment l'intention d'avoir des jobs dans des trucs qui nécessitent d'avoir un casier judiciaire vierge, donc bon, je pense que à chacun de se poser cette question, en tout cas, et de s'en libérer de cette peur-là, je pense que ça peut permettre d'ouvrir pas mal de trucs. Et de faire de la garde à vue une fête, c'est un bon chemin. Et est-ce que la prochaine question peut venir d'une femme? Parce qu'il y a 3 hommes, 4 hommes qui ont parlé. Ouais.
Bonjour, j'ai 2 questions. Je suis pas très réseaux sociaux, Facebook, tout ça, j'y suis de fait par le travail. Et j'y suis pour suivre les marches, les actions, le plan climat, les agora, etc. Je regarde pas de vidéos, à part celle de partager, c'est sympa. Donc tu m'as donné envie de regarder des vidéos sur les réseaux sociaux.
Excellent.
C'est déjà un grand pas. Voilà. Comment après on va toucher des gens qui sont comme moi, n'ont pas forcément envie, le réflexe, etc., de regarder des vidéos ou de suivre sur les réseaux sociaux? Comment après, comme hier avec l'Assemblée Générale de Lyon Climat, comment on se retrouve plus souvent? Je n'étais pas là, j'ai regardé le direct sur Facebook.
Et ma deuxième question. Comme quoi, tu regardais un direct vidéo sur Facebook.
J'ai fait des efforts. La question un peu plus profonde, je suis née dans une famille de militants, je viens à Primevert depuis 30 ans, je mange de la quinoa, je fais des éco-gestes, je vote écolo, je vais aux marches, etc., je change ma consommation. Ça fait 10 ans que je bosse dans le développement durable, et aujourd'hui, je me pose des vraies questions de sens. C'est quoi le sens de la vie? C'est quoi le sens de mon métier que j'ai choisi face à ce potentiel effondrement? Si quelqu'un a une date, je suis preneuse aussi. Donc aujourd'hui, la question, c'est comment on vit avec, voilà, avec ce potentiel effondrement ou transition positive, voilà, et comment on devient un peu plus radical. Voilà.
Merci. C'est un peu vague. Alors, je vais commencer très rapidement par la première question. Comment est-ce qu'on met des vidéos devant les yeux des gens qui ne les regardent pas, qui regardent pas les vidéos? En fait, c'est un des trucs auxquels j'ai pas mal réfléchi, parce que ce que j'aimerais beaucoup, et je sais que c'est pas du tout gagné, c'est que lorsque quelqu'un regarde une vidéo, il comprenne suffisamment le raisonnement, parce que j'ai été rigoureux dans comment je raconte mon histoire, pour qu'il puisse parler du truc, lui-même un peu refaire, ou elle-même refaire la vidéo à la personne qui la regarderait pas. Et lors d'un repas de famille, redonner le même contenu, mais sans que la personne regarde la vidéo. Ça, c'est en tout cas ma stratégie. Et pour ça, je me suis donné les moyens, là, récemment, de filmer des vidéos pendant 1h20. C'est un truc qui va sortir, probablement ça durera 30 minutes, où je discute juste avec un ami à moi qui est un vidéaste belge et qui a fait justement la version belge de « Il est encore temps ». et on discute avec toute sincérité, parce que je me dis, en fait, les conversations qui me marquent, c'est des conversations. C'est pas quelqu'un qui me déboule son speech avec des arguments et bam, 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 et c'est rythmé et machin. En fait, ce qui me permet de bien saisir et comprendre quelque chose, c'est lorsque j'assiste à une conversation. Et du coup, j'ai essayé, en tout cas, je vais voir si c'est utile, de faire un format conversation. Par rapport à c'est quoi le sens ? Comment est-ce qu'on arrive à trouver du sens dans une perspective d'effondrement ? Il y a plusieurs réponses. C'est marrant parce que je réalise que j'ai parlé aussi de date. J'ai fait cette blague et toi, tu l'as refait aussi. Et en fait, moi, je suis assez convaincu qu'on est déjà dans l'effondrement. Clairement, au niveau de la biodiversité, il y a aussi des événements climatiques majeurs qui sont absolument dingues. Genre, enfin, je veux dire, les 100 degrés de différence qu'il y a eu la semaine dernière à deux endroits de la planète et les conséquences qu'elles ont eues sont phénoménales. Je ne vois pas comment appeler ça autrement qu'un effondrement. Et que finalement, on est déjà dedans et que probablement, ce qui nous pend au nez, en tout cas, j'en suis assez sûr, c'est des États qui vont s'accrocher à la préservation du cadre lorsque tout le reste se cassera la gueule et que du coup, on va davantage vers un système autoritaire que ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors, comment est-ce qu'on trouve du sens dans tout ça ? Moi, j'ai essayé de répondre à ça en allant au fond du trou, d'abord, et en m'arrêtant vraiment. Je pense qu'on n'a pas assez d'espace pour s'arrêter, pour se dire, ok, en fait, voilà où j'en suis, et c'est super dur. Et on n'a pas assez d'espace pour le partager, ces réflexions-là. Et ça encore, ça peut être entre nos mains. On peut créer un groupe dans lequel on se retrouve pour parler d'effondrement. Et sur la base, simplement de se dire, il n'y a pas de cadre particulier, sauf de se dire, bah, voilà ce que j'ai appris cette semaine et voilà ce que ça me fait. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Et nous, on a créé un groupe comme ça et c'est super cool. Et le sens de la vie dans l'effondrement, c'est à chacun de le donner, évidemment. Mais moi, en tout cas, je le vois vraiment dans le fait que ce qui donne du sens à ma vie, c'est contribuer à la vie des autres. C'est le meilleur moyen pour moi d'être heureux. J'ai remarqué ça, en tout cas. Et du coup, aussi, c'est impossible pour moi d'être heureux si je vis dans la peur. Donc, quand je dis qu'il faut aller au fond du trou, c'est de se dire, bon, est-ce que je suis OK avec le fait que je meure ? Oui. Il n'y a pas trop de problème avec ça, en tout cas, pour moi. Donc, est-ce que ça va si je vis une vie joyeuse dans un monde qui s'effondre en contribuant à la vie des autres de la meilleure manière que je puisse ? Eh bien, si oui, là, ça va mieux après, parce qu'il y a une sorte de nouvel ancrage. Mais ça ne m'empêche pas non plus d'avoir plein de moments de bad où je me dis, mais où je prends sur mes épaules l'espace de 10 minutes le fait d'être à la hauteur de l'effondrement, et là, c'est un petit peu oppressant. Mais à ce moment-là, du coup, je regarde des montagnes et je me dis qu'elles étaient là depuis 10 millions d'années et que moi, je suis qu'une fraction de seconde de l'histoire de l'humanité, que je n'ai pas choisi d'être là, mais que je peux choisir de vivre ce moment de la manière dont j'en ai envie. Parce que fondamentalement, il n'y a personne, en tout cas, je crois qu'il n'y a personne, qui définit ce que je dois faire de ma vie. Mais donc, effectivement, quant à cette réflexion-là, c'est plus dur après ça d'être trader à Londres, quoi. Mais c'est bien, en fait. Je pense que c'est un des trucs que peut permettre un crack boursier, par exemple. C'est si l'argent arrête de circuler, la monnaie, si les salaires ne peuvent plus être versés, on va voir très très vite qu'est-ce qu'un bullshit job. Hein. On va voir très très vite les gens qui arrêtent d'aller travailler parce qu'ils ne sont plus payés. Et on va voir très vite, du coup, les personnes qui travaillent pour contribuer au bien commun. Et ça, lorsqu'on va libérer ce temps-là, à mon avis, toutes les personnes qui ont des bullshit jobs, bah, ils vont faire d'autres choses qui sont peut-être moins bullshit. Et moi, je m'en réjouis un peu. Et en plus, aussi pour trouver du sens, c'est intéressant d'aller regarder des effondrements qui ont déjà eu lieu. Et je trouve que la situation qu'a pu connaître l'Argentine, par exemple, est super intéressante, parce qu'il y a eu un moment où l'économie s'est totalement effondrée. Et d'un coup, d'un seul, ça peut nous donner de l'espoir, il y a eu plus de 162 monnaies locales qui se sont créées. Tout le monde s'est mis à cultiver sa bouffe. Des réseaux de production locale, solidarité à blinde. Et du coup, je pense aux amis de la Gonette ici à Lyon qui doivent se dire « Mais putain, on n'a même pas 3000 adhérents. » Bah oui, mais c'est parce qu'il n'y en a pas encore besoin, en fait. Mais le moment où il y en aura besoin, vu que vous avez déjà diffusé l'idée d'avoir des monnaies locale, bah, peut-être ça peut prendre très très vite. Et c'est ça du coup le rôle qu'on doit avoir, et c'est ça qui donne du sens à ma vie aujourd'hui, c'est mettre le maximum d'efforts pour construire un imaginaire qui nous donne presque envie d'un effondrement, ou en tout cas qui nous donne la capacité de naviguer là-dedans, pour qu'on ne soit pas paralysé par la peur. Et surtout, moi, voilà, le truc le plus important, c'est quand on a une crise, on peut soit réagir avec solidarité, coopération, soit chacun pour soi. Et si on est déjà plein à être en petit groupe de 8, à être coopérant, eh ben, on va être super fort.
Alors, moi, ma question, c'est comment on fait pour motiver des gens qui ne sont pas forcément touchés par l'écologie ? Genre, par exemple, en ce moment, avec ma sœur, on essaie de motiver les gens pour faire la grève de l'école pour le climat. Et sauf que les gens dans notre lycée, ils sont pas du tout touchés par ça, et justement, ils auront plutôt tendance à avoir peur des retombées des parents, des choses comme ça. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on peut réussir à motiver beaucoup de gens pour qu'ils viennent faire grève, par exemple ?
Merci pour cette question. Est-ce que tu peux lui redonner le micro ? Et parce que j'ai une question, du coup, est-ce que tu peux nous dire comment tu t'y prends ? Est-ce que tu as un exemple où tu as parlé à quelqu'un et où tu as dit vraiment, je m'en fous de ta grève, quoi ?
Alors, moi, j'ai une copine qui ne s'intéresse pas à ça. Bon, elle a d'autres problèmes à côté, mais vraiment, ouais. Le climat, c'est... Elle s'en fout, elle a déjà... Enfin, c'est pas qu'elle s'en fout, mais c'est qu'elle n'a pas envie d'y réfléchir et que pour elle, c'est lointain. Et donc, du coup, quand je lui en parle, elle me dit « Non, mais je comprends. Je comprends que toi, tu as envie de te bouger les fesses pour ça, mais vraiment, moi, j'ai d'autres chats à fouetter et j'ai pas envie de m'occuper de ça, en fait. » Du coup, bah, c'est vrai que quand j'ai envie de la motiver pour ce genre d'événement, je parle un peu dans le vide, quoi.
Et est-ce que tu peux me dire ce que tu lui as dit quand t'es allé lui proposer de venir ?
Bah, globalement, je lui parle un peu de tout ce que je sais, moi, sur l'urgence. Ouais, des fois, je reprends des arguments de tes vidéos, par exemple. Mais après, j'ai pas d'exemple concret de ce que je lui ai dit. Des fois, j'essaie de lui donner des exemples de ce qui pourrait arriver. Mais déjà, elle a d'autres problèmes, donc c'est plus lointain. Et puis, je pense aussi, dans sa tête, elle se dit aussi que ça arrivera à ses enfants et pas à elle. Et j'ai beau lui dire que c'est, enfin que nous on va gérer la merde et probablement nos parents seront encore là quand on devra la gérer, c'est encore trop lointain et j'arrive pas à faire comprendre l'urgence en gros.
Ok, merci. Alors j'ai pas la baguette magique, hein. Clairement je prétends pas ça. Mais il y a des trucs qui me font tilt dans ce que tu viens de partager. Un de mes dadas, c'est la communication non violente. Et en fait par deux fois là t'as mentionné le fait qu'elle a d'autres problèmes. Et en fait, ce que j'observe, c'est que lorsqu'on veut convaincre quelqu'un de faire quelque chose, fondamentalement, c'est une conversation. Et dans une conversation, la personne ne peut pas t'écouter si elle ne s'est pas sentie écoutée. Et du coup, lorsqu'elle te renvoie le fait qu'elle a d'autres problèmes, pour moi, c'est un peu un ding-dong, ça veut dire qu'il faut lui offrir de l'empathie. Et une fois qu'elle s'est sentie écoutée, là, elle pourra t'écouter. Après, le problème est lointain, c'est vrai. Et on a la chance d'avoir plein d'exemples très très proches de nous. Il y a la disparition des insectes, c'est vraiment à côté de nous. Le fait qu'il y ait aussi 50% des oiseaux en moins, c'est à côté de nous. Et la pollution de l'air, c'est aussi à côté de nous, bien que ce ne soit pas visible immédiatement. Mais là, c'est déjà de donner des arguments, en fait. Et pour dire quelque chose qui serait peut-être utile à plus large échelle, moi, ce que j'observe, c'est que lorsque j'essaie de convaincre, souvent, j'y arrive pas. Lorsque je dis à l'autre ce qu'il doit faire, souvent, j'y arrive pas. Et je pense que ce que vous aimez bien dans mes vidéos, c'est que quand vous la voyez, vous sentez que j'y crois. Et vous sentez que c'est important pour moi. Et en fait, c'est ça le meilleur conseil que je puisse donner pour donner envie à quelqu'un de vous rejoindre, c'est de raconter pourquoi et comment c'est important pour vous. Quelles peurs vous avez, quelles envies vous avez, pourquoi vous vous mobilisez. Et sur cette base-là, bah, ça peut faire résonance et trouver les bonnes personnes pour y aller. Mais c'est sûr qu'il y a une différence si je dis « Bougez-vous le cul, il faut que vous alliez vers la grève !» Ou si je dis « Moi, j'ai envie d'être à la hauteur et c'est super important pour moi à cause de ça, 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 ça. » Et si ça vous dit bah, « On y va ensemble. » C'est pas radicalement différent, mais ça ouvre un petit peu plus de portes. Et surtout, c'est super cool quand on se fait agresser. Genre, quand quelqu'un te dit « Ouais, mais n'importe quoi, ton truc, moi, clairement, je le fais pas. » Et tu dis « Ok, y a pas de problème. T'es pas obligé de le faire. Moi, si je le fais, c'est à cause de ça. Point. » Et ça m'est arrivé plein de fois que pas plein de fois, mais ça m'est arrivé qu'on me dise « Mais ton truc, ça a pas marché, là. Enfin, tu vas pas y arriver, tu vas t'épuiser. Et du coup, en fait, je dis, bah, on verra bien. En tout cas, pour le moment, c'est marrant. Pour le moment, ça me permet de vivre des trucs plutôt cool, quoi. Petite équipe de 4 personnes, on fait des vidéos. Allons-y, continuons, quoi. Et là, en général, bah, pas grand-chose à répondre.
Mais moi, je suis petite par rapport. Enfin, je peux pas faire grand-chose, du coup. Et enfin, si je peux.
Est-ce que tu peux parler plus proche du micro ou plus fort?
Donc, je suis assez petite pour faire plein de choses au niveau écologique. Et je me demandais ce que je peux faire de plus, parce que j'ai vraiment l'impression de vouloir aider la planète, mais je ne sais pas comment m'y prendre et j'ai l'impression que ça ne sert un peu à rien. Voilà, j'aimerais, si tu peux me donner des aides, des petits trucs ou ouais, plus des contre-trucs.
Pour que tu fasses des choses qui ne servent pas à rien. Ok. D'abord, un des trucs qui est la garantie de sentir qu'on sert à rien, c'est si on n'a pas pris un tout petit peu de temps pour clarifier qu'est-ce qu'on essaie de faire. Qu'est-ce qu'on a envie de faire. Parce que, par exemple, moi, si mon objectif de ma vie, c'est de résoudre le problème climatique, ce que je fais ne sert à rien. Hein. Là, pour le moment, ça sert à rien, quoi. Mais si mon objectif, c'est de donner envie et des moyens à des gens de se mettre là-dedans aussi, bah là, ça ne sert pas à rien, ce que je fais. Mais c'est sûr que quand on prend ce problème du dérèglement climatique, il est méga systémique. Il y a plein de choses que tu ne maîtrises pas et que tu ne maîtriseras jamais et qui te dépassent totalement. Et effectivement, c'est se dire, bon, bah, je n'ai pas ce pouvoir, en fait. Et je vais faire ce qui me plaît. Moi, le truc qui est le plus important, c'est faites des trucs qui vous font plaisir. Parce que si on se dit qu'on n'a pas énormément de chance, que ce truc-là dure très très longtemps et qu'on ne sait pas vers où on va, ça ne sert à rien de juste se battre et de ne pas vivre. Enfin, je préfère qu'on vive et qu'on kiffe la lutte, qu'on soit vraiment content de ce qu'on fait. Comme ça, bah, même si on n'y arrive pas, au moins, on aura aussi, dans notre lutte, dans notre combat, vécu des trucs qui valent la peine. Et voilà, ça répond un petit peu à ta question. Et après, est-ce que tu as des parents? Bon. Bon, très bien. Eh bien, tu peux proposer à tes parents de faire des rendez-vous avec d'autres parents et d'autres enfants et tu leur fais une présentation de ce que tu sais. Et tu leur dis, est-ce que vous savez d'autres choses en plus de ce que je sais? Et maintenant, une fois qu'on a tous mis ensemble ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on fait? Moi, ce que j'aime bien, c'est essayer de créer des espèces de dissonances cognitives, tu vois, de faire un truc qui fait un peu un switch, où tu te dis, ah merde, il faut que je réfléchisse maintenant. Et ça, c'est bien. Et voilà.
Vincent, moi je voulais te dire un grand merci parce que tes vœux cette année ont été les miens et je les ai relayés un maximum de fois et ça c'était vraiment absolument génial et je ne suis pas du genre à regarder des vidéos tout le temps. Par contre, je suis super engagée, notamment à NVCOP21, donc s'il faut aller enlever des bouchons, tu peux compter sur moi. Par contre, je voulais juste te dire de faire très attention parce que, comme tu as dit tout à l'heure, ben, faut rester en sécurité parce que si on se retrouvait en garde à vue, en prison, pour sauver la planète, comme tu dis, il n'y a pas de souci, mais sauf qu'on n'est plus actif à ce moment-là. Et du coup, je voulais te dire que ce que je sais à mon petit niveau, les associations qui défendent la Palestine n'ont pas pu appeler au boycott des produits israéliens. Et ils avaient vraiment l'intention d'aller dans les supermarchés et dire le jus d'orange Jaffaden... Voilà, on met un gros trait noir dessus et non, donc voilà, je sais pas vraiment comment on peut agir contre Monsanto et tous les autres, mais moi je serai là, hein, dans les supermarchés. Hein.
Moi je vais chercher des chemins de traverse, hein. Je vais parler avec des avocats, dire est-ce que si je dis que ce serait intéressant ou juste de dire, de partager l'idée, alors en fait s'il n'y a plus de bouchons, ils se vendent plus. C'est tout ce que j'ai dit, hein. Ça, je pense qu'il y a moyen. Et de deux, franchement, je pense que c'est un truc qu'il faut réfléchir. Quand tu dis on veut rester en sécurité, en vrai, on n'est pas en sécurité. On n'est pas en sécurité. Là, maintenant, vous n'êtes pas en sécurité. Et il y a des gens qui prennent des décisions qui peuvent amener votre avenir à être extrêmement précaire. Et d'ailleurs, vu qu'il y a plein de gens qui s'intéressent à l'effondrement ici, il y a eu dans une conférence très récente là, avec, je crois que c'est Laurent Fabius, ouais, celui qui a présidé la COP 21, dans lequel quelqu'un lui a posé la question. Donc d'abord, il a commencé par un exposé très factuel, très scientifique de tout ce qui compose en fait, l'effondrement, de la fragilité de la biosphère, des flux, du peak everything, voilà. Donc, très conscient de tout ce qui concerne l'effondrement. Et quelqu'un lui a posé la question, est-ce que les institutions politiques vont faire quelque chose pour prévenir un effondrement? Est-ce que notre système politique est à la hauteur de l'effondrement? Et il a dit, bah, vous avez la réponse dans votre question. Donc en fait, ça veut dire que Laurent Fabius, qui a présidé la COP21, sait qu'on va vers un effondrement. Il l'a parfaitement compris. Il sait très bien que les institutions dans lesquelles il évolue ne sont pas à la hauteur et nous y emmènent, et il ne fait rien. Donc en fait, c'est pour renforcer notre sentiment qu'on n'est pas en sécurité. Et en fait, c'est un des trucs qui me questionne moi beaucoup, c'est que je sens pas trop qu'on a l'énergie du désespoir dans le mouvement climat. On est un petit peu... on est chillax, tu vois. On agit de temps en temps et on vient surtout satisfaire notre besoin de sens et de communauté, ce qui est bien, hein, on en a besoin. Mais par contre, on n'a pas forcément envie d'aller beaucoup plus loin que ça si on peut l'éviter. Et en fait, je pense qu'on a besoin de cultiver le sentiment d'urgence et la précarité dans laquelle on est et le très court espace-temps qu'on a pour essayer de faire des choses et rien que se mettre en réseau, c'est le thème du truc. Je pense vraiment que c'est si vous devez partir avec une chose de cet échange qu'on a eu, c'est de se dire, en fait, mon objectif, c'est vraiment cette année de constituer un réseau autour de moi sur lequel je puisse compter, avec qui je puisse vraiment faire des choses, y compris dans une perspective de pouvoir autoritaire, d'effondrement. Voilà.
Alors, il y a une autre personne qui est intervenue un peu avant moi et qui était plus dans le... qui donc disait qu'il était un peu... qui n'était pas trop réseaux sociaux et qui essayait de s'y mettre. Et moi, je suis exactement en fait dans la dynamique inverse, c'est-à-dire que moi, mon métier, c'est l'informatique. Donc, je suis dans un monde qui est ultra connecté et où, justement, je vais avoir une recherche inverse de déconnexion et où je vais avoir une conscience particulière de la fragilité, justement, des réseaux où tu diffuses tes vidéos. J'ai quitté Facebook il y a quelques mois. Honnêtement, depuis que j'ai quitté Facebook, je ne suis plus tes vidéos comme je les suivais avant. Donc je voulais savoir si à ce niveau-là, il y avait une réflexion, s'il y avait une réflexion sur la multiplication des réseaux sur lesquels ça pouvait être diffusé. Donc tu as parlé de Twitter, donc ces gros réseaux, mais aussi sur la duplication des contenus, éventuellement leur rediffusion, s'ils pouvaient être supprimés. Et si voilà, s'il y avait des réflexions là-dessus, si... sur les réseaux alternatifs, sur tout ce qui pouvait être mis en place. Voilà.
Très bien. Ma gestion des disques durs est horrible. C'est un des trucs dans ma to-do list depuis 6 mois. Il faut absolument que je réorganise toutes mes données, que je fasse des copies, que je mette en ligne aussi sur Peertube, qui est l'alternative à YouTube. C'est vraiment un truc que j'ai envie de faire, mais j'avais juste pas le temps jusqu'à maintenant. Mais oui, c'est important. Et ensuite, en fait, moi, en vrai, je considère que si tout devait être interdit et bloqué la semaine prochaine, c'est pas très très grave parce que, en fait, la durée de vie de mes vidéos sont en général de 1 à 2 semaines. Donc, en fait, tant que j'arrive à partager le message très très rapidement et très très fort, c'est pas si grave si après ça elles disparaissent. Bon, c'est un peu un gâchis pour le travail que j'ai fait, mais je suis plutôt en paix avec ça. Et de toute façon, je considère vraiment que tout ce que je fais maintenant est temporaire et n'a de sa valeur que dans le temps présent, quoi. Mais il y a une réflexion. Je ne sais pas si YouTube, ça te va pour le moment ou si tu ne vas pas sur Facebook. Bof. C'est Google. C'est très vrai. Ah, Imago. Imago TV. Quelque chose. Qui vient de sortir et dans lesquels il y a mes vidéos.
Heureux, pardon, j'espère que je pique pas à un moment à d'autres. La question que je me pose, c'est de me dire qu'en fait, est-ce que la meilleure résistance, ce ne serait pas l'écologie en elle-même, dans le sens où... Alors après, c'est que mon point de vue et je voulais justement le mettre sur la table pour avoir d'autres retours, puisque moi, je suis dans les musiques traditionnelles, je m'intéresse au patois, etc. Et pour moi, toutes ces choses-là qui sont le fondement de l'écologie, dans le sens que c'est le modèle de la société paysanne, ce sont les outils de la résistance pour moi. Je prends au hasard, le patois, c'est une manière de ne pas être compris. La musique, c'est une manière de créer une identité commune, de pouvoir passer des messages aussi, de pouvoir créer des histoires, des images. J'ai l'impression que tous les outils du capitalisme aujourd'hui, Facebook, tout ça, etc., plus ça va, plus ils mettent la main dessus, plus ils se les emparent. Et finalement, est-ce que le dernier outil qui restera celui de tout le monde, ce ne sera pas l'outil écologique par essence, c'est-à-dire l'outil, je vais dire un gros mot, mais l'outil paysan, c'est-à-dire ce vers quoi on peut retourner dans la joie, le rêve, l'amour, la bonne humeur, etc. Le rêve, quoi. Après, je pose cette question à toi parce que tu fais des vidéos. Ton outil à toi, ton matériel, c'est Internet. Et du coup, ça m'intéressait de la poser pour cette raison-là. Voilà.
Ben, de plus en plus, en fait, Internet, c'est la face visible de mon travail, mais je prends énormément de temps et d'énergie à travailler avec les personnes qui organisent les mobilisations et à participer aux AG et aux réunions et essayer de faire avancer aussi le truc comme ça. Oui, à fond. Moi, j'aimerais bien apprendre un patois. Je sais faire l'accent québécois, mais je crois pas que ça marche. C'est un des imaginaires. En fait, ce qui est trop bien, c'est qu'à partir du moment où tu te lances dans cet imaginaire, et c'est pour ça que je vous encourage à créer un groupe que vous nommez comme genre votre groupe de résistants, parce que ça permet de se mettre en mouvement d'une manière qui est hyper utile, en fait. Qui apporte beaucoup de liberté et qui apporte beaucoup d'imaginaire aussi. À partir du moment où on a ce groupe, on se dit « Ok, est-ce qu'on peut pas avoir une boîte qu'on cacherait sous un escalier dans lequel on pourrait mettre à quelle heure et où on se donnerait rendez-vous, si machin ? Est-ce qu'on pourrait pas acheter ensemble un gros sac de riz ? Ah ouais, mais du coup, comment on fait pour les souris ?» Et je sais pas, ça te fait imaginer plein de trucs auxquels t'as pas pensé et qui te met en mouvement, en fait, qui te permet de ne pas être en paralysie totale par rapport à ce qui s'annonce devant nous. Et aussi, ça permet aussi de se dire qu'on ne sait pas quoi. En fait, on tente des trucs, on ne sait pas qu'est-ce qui servira à quoi. Mais voilà. Ouais.
Bonsoir. Alors, je m'appelle Jean-François. Moi, je n'ai pas de questions à te poser, donc tu ne seras pas obligé de me répondre. Juste envie de partager
colle réflexions. Bien le micro contre ouais. toi.
Partager des réflexions ensemble. Voilà, et puis c'est sympa. Je voulais te remercier aussi de la vidéo que tu avais fait avec le réseau des AMAP. Mm-hmm. J'en fais partie. Puis c'était une chouette vidéo qui s'adressait aux jeunes, justement. Et c'est à eux que j'ai envie d'envoyer des pistes. Parce que, bon, l'effondrement, moi, je n'ai pas la date, je n'ai pas de scoop à vous donner. On y est. Je pense qu'on y est, effectivement. Et puis le jour où ça va faire plus patatras, en fait, toutes tes vidéos sur Facebook et compagnie, ou même sur Imago ou quoi que ce soit, on ne pourra plus les voir parce que si vraiment tout s'effondre bien comme il faut, les sources d'énergie qui permettent aux vidéos de circuler ou de ces choses-là, ça ne marchera plus, il faudra qu'on trouve d'autres moyens. Et les moyens que tu évoquais, c'est ces petits groupes de résistance dont tu parlais. Moi, je considère que, par exemple, les AMAP sont des premiers groupes de résistance.
Absolument. Ouais.
Et puis, le jour où on aura cet effondrement qui nous tombera sur la gueule de manière un peu plus violente, la première chose qui nous viendra, c'est de trouver quelque chose à manger et de continuer à nous nourrir. Et la question des AMAP, c'est une question qui est fondamentale parce qu'elle permet de sortir du système capitaliste qui est ce fameux système qui nous ronge petit à petit. Et nous, on travaille au niveau du réseau des AMAP à essayer justement de faire ce qu'on appelle de l'éducation populaire, de travailler auprès des jeunes, dans les collèges, dans les lycées, pour apporter des solutions auprès des parents des jeunes notamment, de faire en sorte que ces idées-là, elles arrivent à se nouer et que les petits groupes, ils se créent aussi dans les quartiers. Parce que je pense que les petits groupes, tu parlais de 5-6 personnes, mais 5-6 personnes, on est presque encore...
C'est un noyau.
Oui, on est presque encore dans l'individualiste. il faut aussi penser que la société dans laquelle on vit, elle est constituée de quartiers, de villages, et que les petits groupes, parfois, il faut qu'ils soient plus gros. Et peut-être que le problème qu'on a et qui nous amène à l'effondrement, ce n'est pas uniquement le problème capitalistique, c'est aussi un problème qui est lié aux écosystèmes. Je vais vous prendre un exemple. Par exemple, quand les souris pullulent, les renards se lèchent les babines parce qu'ils vont avoir plein de choses à manger. Et du coup, les renards vont pulluler aussi. Et petit à petit, ils vont manger beaucoup de souris et il va y avoir plus trop de souris. Et on pourrait penser qu'avec l'espèce humaine et les ressources naturelles, c'est un peu la chose qui se passe actuellement. C'est-à-dire qu'on pullule, on est nombreux, peut-être trop nombreux, et qu'il y a peut-être aussi cette idée-là qui est à prendre en compte, le fait que le nombre d'êtres humains sur Terre est peut-être arrive à une phase qui est trop importante pour les ressources.
Est-ce que je peux te répondre ?
Vas-y, bah, si tu veux. Hein.
D'abord, est-ce que tu peux passer le micro au jeune homme qui est ici ? Pour les réseaux de réseaux.
Oui, l'histoire d'être en groupe, en communauté de 8, 10 personnes, peu importe, l'intéressant, c'est que derrière, on n'est pas en autarcie, on ne fonctionne pas en totale autonomie, c'est de mettre ces groupes en réseau et en fait d'avoir une dispersion totale de qui mène l'action, de qui organise, de voilà, en fait, c'est de jeter une plus grande diversité pour avoir aussi une plus grande force de frappe. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de tête de réseau et s'il n'y a pas d'organisation pyramidale, on est beaucoup plus difficile et à détecter et à débusquer. Et en fait, on peut multiplier d'autant plus notre... c'est comme l'électricité, si tu mets en dérivation, pouf, y a plus d'énergie. Voilà. Donc, après...
Juliette, tu veux répondre sur la population ou non ?
Non, vas-y.
Ok.
La population ?
La population est un problème. Alors, la population est un problème quand elle pollue comme on le fait. Donc, en fait, le problème, c'est toi. C'est ça, le truc. C'est qu'en vrai, le problème, c'est nous. On est les pires. On est 1% de la population. On représente la France. Et on émet 2% des émissions mondiales. Donc, nous, en fait, on pollue déjà deux fois trop. Et dans une perspective d'effondrement, en plus, il faudrait qu'on réduise par 6 nos modes de consommation pour être OK. Et moi, j'ai fait mon empreinte carbone. Alors, je prends beaucoup le train, mais j'ai quand même une consommation de 1,6 planètes. Et en fait, on a qu'une planète. On n'a même pas 1,1 planète. On n'a vraiment qu'une planète. Donc, le problème, c'est nous, fondamentalement. Et je trouve qu'on a beau dos de dire... le problème c'est les Indiens et puis c'est les Chinois et puis c'est les Africains parce qu'ils vont vouloir consommer comme nous, comme si c'était automatique. Ben non, on n'arrête pas de leur dire de consommer comme nous. On n'arrête pas d'avoir nos multinationales à nous qui ne payent pas d'impôts dans nos pays mais qui viennent de nos pays, qui leur disent il faut absolument que vous ayez ce truc-là et ce truc-là et ce truc-là et ce truc-là. En fait, notre pays, la France, a une énorme responsabilité dans la mise en place de ce système qui détruit la planète et une énorme responsabilité dans la promotion encore aujourd'hui de ce système-là. Donc le problème, c'est nous et nos multinationales. C'est pas le nombre de gens. Et d'ailleurs, si on regarde en nombre de gens, la population de l'Afrique, c'est 2% des émissions. Il y avait le Soudan, il y avait quelqu'un du Soudan là, qui était venu et qui disait « Bon, c'est un peu abusé parce qu'on est le pays qui se prend le plus le dérèglement climatique alors qu'on émet 0,6% de encore moins ». Mais je crois que c'était 0,6% de l'Afrique. Et du coup, bon, c'est pas eux le problème, hein, je crois, à ce niveau-là. Donc voilà. Et dernière chose que j'avais envie de dire par rapport à ce que tu as dit, c'est sur le réseau des AMAP, c'était super bien de faire cette vidéo et je te rejoins carrément sur le fait que oui, les AMAP, c'est hyper cool. Et en même temps, si on se met dans une perspective d'effondrement, moi, mon AMAP, elle est en dehors de Lyon. Et j'ai calculé que si je devais me rendre là où il y a le truc de mon AMAP, fallait que je marche genre bien une journée et demie ou un truc comme ça. Donc c'est local, mais pas très local à cause de l'expansion de nos villes. D'ailleurs, si vous voulez, fun fact, la France est le deuxième pays au monde où l'agglomération sont les plus larges. Le premier pays étant les États-Unis. Donc on a des villes qui sont en fait super étendues et qui ont grignoté et qui continuent de grignoter énormément les terres. Et donc moi, je me pose effectivement cette question de d'abord, c'est super loin, et de deux, est-ce que mon cher agriculteur, il va amener les légumes dans la ville s'il est plus payé pour le faire ? Je sais pas. C'est une bonne question à se poser. J'ai l'espoir que oui. Et dernière chose sur ce que tu as dit, tu as vu, tu n'avais pas de questions, mais il y a plein de trucs à dire. C'est que j'ai bien aimé que tu as dit que la vidéo, elle s'adressait aux jeunes. Et en fait, ça s'est un peu senti quand j'ai fait cette vidéo, parce que par exemple, il y avait un passage qui m'a été proposé qui était de dire ouais, c'est abusé. Vous les jeunes, vous nourrissez mal, vous mangez des pizzas et des burgers. Et moi je dis, mais on peut pas faire une vidéo qui dit aux gens que c'est pas bien les burgers et les pizzas, parce qu'en vrai c'est bon. Moi j'aime bien les burgers et les pizzas. Du coup, il faut dire autre chose, il faut donner envie avec d'autres moyens plutôt que de dire ce qui est pas bien dans ce que font les jeunes. Et ça, c'est un apprentissage qui est super important dans, à chaque fois qu'on parle, y compris quand on doit convaincre notre collègue à l'école, c'est de partir de où elle est, la personne que tu as en face. Pas partir de ce que toi, tu as envie de dire et qu'elle comprenne, mais partir de où elle est, qu'est-ce qui est présent pour elle maintenant, qu'est-ce qu'elle vit, qu'est-ce qui est important pour elle. Et c'est comme ça qu'on arrive à bien s'adresser aux gens.
Merci. Du coup, ça fait plusieurs fois qu'on parle de s'organiser en groupe et de faire des choses ensemble, ça. Et j'ai pas regardé toutes tes vidéos, mais du coup, je voulais savoir si dans certaines de tes vidéos, tu parles de ça, ou justement, c'est important de maintenant se retrouver avec ses copains et de créer un peu après l'effondrement. Parce que c'est ce qu'on fait avec les copains, et c'est vrai que c'est super drôle et que ça peut être un joyeux bordel de tous faire ça. Et aussi parce que c'est un des piliers de la résistance, donc faire des actions collectives, tout ça, c'est vrai que c'est aussi un des piliers, mais de créer du coup les solutions ensemble, je pense que c'est vraiment très important, quoi. Et du coup de parler de ça, je sais pas si tu l'as fait ou si tu le montres ou...
C'est une des milliers de vidéos que j'ai envie de faire. Et je découvre aussi des trucs. Je découvre par exemple de plus en plus de réseaux anarchistes qui font déjà ce qui serait nécessaire de faire dans une perspective d'effondrement, certes dans une société qui existe encore, mais je veux dire, ils sont en capacité de créer des squats, ils sont en capacité de se nourrir avec des produits jetés par les supermarchés, ils sont en capacité d'accueillir les migrants mieux que pourrait le faire l'État. Donc par plein de côtés, en fait, il y a des trucs à créer là-dedans, et c'est assez rigolo de voir que le mouvement climat dans lequel j'évolue et que je connais très très bien n'a pas une pensée anarchiste. On n'est pas fondamentalement contre l'État. On a même plutôt la pensée que si on est au pouvoir, on pourrait tout changer et que ce serait très très bien. Et que là, cette notion d'effondrement, elle devient un peu bizarre, parce que du coup, on est en train de faire des demandes à une institution qu'on sait qu'elle sait et qui nous emmène dans le mur. C'est un peu étrange. On va continuer combien de temps à demander ça alors qu'il y a peu de chances que ça aboutisse. Et ça, c'est un des trucs qui est en train d'avoir lieu maintenant, une réflexion qui est en train d'avoir lieu. Et c'est assez riche, je trouve. Et j'ai envie de vous proposer quelque chose. En général, mon expérience des conférences, c'est qu'on les termine et puis là, on a des pensées et puis souvent, du coup, on est parti et on n'a personne avec qui les partager. Du coup, je vous propose d'arrêter la conférence là et que vous preniez juste 5 minutes pour discuter entre vous de ce qui vous a plu et de ce que ça vous fait penser, à quoi ça vous sert. Et comme ça, vous aurez déjà un débrief avant même de partir. Ça vous dit ? Allez, go !